me mon frère.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 17e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, on a un blog, émission-femmeslibres.blogspot.com. Et ainsi, on peut écouter, réécouter les émissions, avoir le programme. Et on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, Féminicide par Compagnon ou Ex, Opus poétique Nuage de Meas Pech Métral, poétesse d'origine cambodgienne aux éditions du Cygne, Ninon Valder et Nicolasson, distribué par Inouï Distribution, et donc c'est une musicienne et une chanteuse. Et puis ensuite, nous aurons des informations, des communiqués, des rendez-vous. Et on démarre par les féminicides par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
en Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Chaque semaine, nous faisons état de la recension dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France. Et c'est toujours un chiffre à minima, car de nombreuses affaires sont non comptabilisées, car en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants, à disposer de leur vie. Le 24e féminicide, c'était mercredi 9 avril à Saintes, en Charente-Maritime. Agnès Quétier, 46 ans, a été battue et étranglée à mort par son compagnon Michel de Carvalho, 48 ans, dans leur appartement. L'homme a ensuite prévenu les secours et a été interpellé. Il avait déjà été condamné pour des violences conjugales sur une précédente compagne. En garde à vue, il a avoué avoir tué Agnès. C'est bien un féminicide. Le 25e féminicide de l'année. C'était le dimanche 13 avril à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Perrine, 42 ans, est morte dans son lit des suites d'un coup de pied au visage porté la veille par Jimmy, son compagnon, 38 ans. L'homme a inventé une altercation avec les voisins. Constatant son décès, il a alors pris la fuite, mais a été interpellé peu après. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. C'est aussi un féminicide. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Et on peut retrouver toutes ces informations-là sur le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Bonsoir toutes et tous, voici donc le recueil Nuages aux éditions du Cygne, Méas, Pêche, Métral, l'autrice. Alors je vais commencer par lire un poème et ensuite je vous dirai également quelques lignes de la quatrième de couverture, puisque Méas est aussi présente avec nous et nous parlerons ensuite un peu avec elle. Donc, je vais commencer par ce poème qui s'appelle « Je voudrais être ». Je voudrais être Dieu, empêcher toutes les guerres, empêcher la famine et les massacres sur cette terre. Je voudrais être un oiseau, voler au-dessus des mers, un écrivain, écrire un livre sur ma mère. Je voudrais être une forêt, changer de couleur à chaque saison, une fleur qu'on admire et qui sent bon. Un poisson, nager au fond des mers, un poète, Guillaume Apollinaire. Je voudrais être Victor Hugo, dire qu'il y a des misérables, Paul Éluard, ne parler que de liberté, Charles Baudelaire, dire du mal de toutes les fleurs, Paul Verlaine, Aimé Rimbaud, beau comme un cœur. Je voudrais être Musset, Vigny, Mallarmé, Lamartine, Clément Marot, Voltaire, Molière. Je voudrais être Racine. Je voudrais être Louise Labbé, François Villon, Louis Aragon, Pernette de Guillet, Marceline Desbordes, Valmore. Je voudrais être Théophile Gautier. Je voudrais être Jacques Prévert, quelle connerie la guerre. Aussi, rappelle-toi Barbara. Lautréamont, chanter le mal d'Aurore pour ne pas mourir poitrinaire. Je voudrais être Sandrard, Sainte-Beuve, Jean Moréas, Jean Tardieu, Pierre de Ronsard, Rémi Bello, Joachim Dubellay. Je voudrais être Francis Carco. Je voudrais être La Fontaine, Christine de Pisan, François de Malherbe, Charles d'Orléans, Félix Arvert, Pierre-Marc Orlan, Paul Valéry. Je voudrais être Sully Prudhomme. Je voudrais être Gérard de Nerval, Francis James, Anna de Noailles, Victor Ségalène, Jules Laforgue. Je voudrais être Émile Verhaeren. Je voudrais être tous ces gens que j'aime et que j'admire, ces poètes, ces écrivains, qui aimaient les nuages et le vent, les mots de tout, les mots et les rimes, qui sont là-haut, très loin d'ici, mais je les sens si près de moi, les mots de tous. Alors, en fait, Méas Bechmétral a, enfant, survécu au régime génocidaire des Khmers Rouges au Cambodge et dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Et ensuite, elle se rend en France avec l'aide d'une famille française, pardon, de la Haute-Savoie. Et Méas a appris le français d'une certaine façon et je souhaiterais justement, comme elle est en ligne avec nous, qu'elle nous dise comment est né cet apprentissage de la langue française. Bonsoir Méas.
Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité.
Mais je t'en prie.
Comment ?
Je t'en prie. Alors,
ah oui, pardon.
Alors donc, oui, ton apprentissage du coup de la langue française, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs par ce poème.
Oui, mon apprentissage de la langue française est dû aux Médecins Sans Frontières que j'ai rencontré dans les camps des réfugiés en Thaïlande, parce que à l'âge de 9 ans et demi, j'ai vécu, vous savez, le génocide des Khmers Rouges, où ils ont massacré 2 millions de Cambodgiens. Et moi, j'étais un enfant, on m'a fait travailler jour et nuit. De 1975 à 1979, et en janvier 79, les Vietnamiens sont arrivés au Cambodge. À ce moment-là, on a pris la fuite, où j'ai fait 9 mois de marche avec tout le monde, hein, c'était l'exode, et venir en Thaïlande. Et j'avais, quand on est arrivé en Thaïlande, j'avais 14 ans, je pesais 20 kilos parce que on était maltraités, on n'avait pas assez à manger, on était privés, mais vraiment de beaucoup de choses pendant les 3 ans, 8 mois et 20 jours de régime. Et d'ailleurs, c'est le 50 ans cette année-là, depuis le 17 avril, donc je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Et puis mon apprentissage de la langue française, c'est dû avec Médecins Sans Frontières, parce que j'ai rencontré les Français de Médecins Sans Frontières qui venaient nous soigner dans les camps de réfugiés là-bas. Et puis j'ai senti qu'il y avait de la liberté, il y avait de respect, de tolérance, de partage à travers eux. Donc, ce qui fait que ça m'a donné cette envie de venir en France d'ailleurs aussi, et puis d'apprendre le français.
Alors, il me semble, enfin, je me permets de te tutoyer, hein, si ça ne t'ennuie pas, parce que je me suis sentie assez proche, en plus de ton écriture, et puis aussi, surtout aussi de la bataille, quoi, que tu as menée. Enfin, je m'en sens pas proche, je n'ai pas connu cette bataille. Je me sens même très petite, quoi, pas comparée à toi. Mais du coup, là, je vais lire un autre texte. Et en fait, ce qui m'a aussi beaucoup touché, alors j'ai cru comprendre qu'en fait, tu as appris le français aussi beaucoup dans les dictionnaires. C'est ça, le Larousse et le Robert.
Oui, parce que du coup, je suis restée 4 ans dans les camps des réfugiés en Thaïlande. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré cette famille de Français de la Haute-Savoie. qui m'ont aidée à venir en France. Et quand je suis arrivée en France, en 1983, j'avais déjà 18 ans. Donc, c'était pas facile d'aller à l'école. Et du coup, ils m'ont quand même permis d'aller à l'école pendant un an parce que c'était ma volonté, parce que je n'ai jamais connu l'école pour connaître l'école, mais je pouvais pas suivre en classe de troisième. Et du coup, je suis restée un an. Et après, je suis un peu partie pendant quelques mois dans la nature, comme ça, je savais pas trop quoi faire. Et puis, mais quand même, avec toujours un livre et puis des dictionnaires, ce qui fait que j'ai beaucoup lu à partir de là, des revues, beaucoup de choses, des romans, et avec toujours un Larousse ou le Robert avec moi, parce que c'est eux qui, quand je comprenais pas, je transcris les mots sur les papiers blancs, et ensuite après je suis allée chercher des
définitions.
Oui, c'est pour moi, c'est ce que je disais, que pour moi la lecture c'est l'école, et puis Larousse et le Robert étaient mes profs. Hein, j'avais pas le choix. Je pouvais pas aller à l'école, et puis personne n'était disponible pour m'apprendre, donc il faut aller.
Parce qu'en fait, si je comprends bien, à 18 ans quand tu es arrivée en France, c'est à 18 ans que tu es arrivée en France, c'est ça?
Oui, à l'âge de 18 ans, en 1983,
oui, tu disais. Oui, voilà. Et donc, tu ne parlais pas complètement français, tu avais quelques notions.
Oui. Oh, j'avais peut-être 20 mots. Je parlais, moi, aime beaucoup manger, ou moi, aime beaucoup votre pays. Mais c'était tout à l'envers, comme ça. Mais je faisais le maximum en Thaïlande, en croisant les Médecins Sans Frontières, et j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans, et mais parce qu'ils avaient besoin de main d'œuvre, et ensuite il y avait les traducteurs, quoi, en fait des interprètes, et du coup j'ai osé demander à un interprète qui était gentil de m'apprendre un mot de français par jour, et il m'a appris en faisant des phrases, et ensuite en notant en khmer, en cambodgien, les signes phonétiques pour prononcer en bas et tout. C'était comme ça, oui.
Ouais, mais en fait, c'est assez incroyable. T'es presque, on pourrait dire, une autodidacte pour l'apprentissage du français.
Oui. Moi, je crois à peu près comme ça, parce que en arrivant en France, moi, je crois que tout le monde parle français, et après, c'est plus facile aussi. Et puis, on a des livres et tout à portée de main. C'est pas comme dans les camps de réfugiés, parce que pendant les 4 ans, pendant le régime Khmer Rouge, l'école était supprimée. Il y avait rien du tout. Je me souviens, j'avais le Khmer, j'avais le niveau de CP, donc j'essayais de regarder les morceaux de journaux, mais c'était dur, sans lecture, sans école, sans rien. C'était le travail jour et nuit, 4 fois du matin jusqu'à midi, 1 heure, 6 heures, 7 heures du soir jusqu'à 10 heures du soir. Et à la lampe de torche, et puis sinon c'était à la lueur quand il y avait la lune, quoi, qui brillait, donc on voyait assez clair, et c'était comme ça. Il y en a beaucoup qui sont morts, et moi j'ai eu 3 fois le paludisme, c'est pour ça que je pesais 20 kilos à 14 ans.
Ben quelle force, hein, c'est quand même incroyable. Alors je vais dire, maman reviendra, madame. Le monde est une cruauté pour vous et votre famille, pour vos enfants qui sont si petits. Et moi, j'ai honte devant votre maladie, devant vos sourires et votre courage. J'ai honte d'être là, impuissante devant ce que je vois, devant votre combat, devant vos enfants, qui gardent l'espoir que maman reviendra, maman guérira. Il m'arrive de pleurer seule dans la forêt, de parler aux arbres et au vent, aux dieux, s'il en existe un, de crier en silence, de parler de vous à moi-même. Je vais lire aussi celui qui s'intitule, ou qui s'appelle, s'intitule, Le blessé. La nuit est profonde et silencieuse. Le village devient un cimetière affreux. avec des ombres bizarres, des chuchotements, des âmes qui volent, qui tournent en rond. Dans une maison, la lumière est allumée, la porte est ouverte, quelqu'un est entré. Il éteint la chambre, rallume la lampe de chevet, s'allonge sur le lit. Le sang commence à couler. Le silence est en train de lui déchirer le cœur. Seul dans son lit, avec son sang, il pleure. Le regard au plafond, les deux mains sur son cœur, comme s'il priait ou attendait le sauveur. À l'aube, il y avait bien des gens qui passaient. Ils cherchaient le blessé. Mais il n'était déjà plus là. Son lit était vide. Pas une goutte de sang dans les draps. Il a laissé sur un papier le portrait d'un ange qui volait dans les nuages. Alors, Méas, je me suis... Du coup, est-ce que c'est un texte, disons, complètement imaginaire, ou bien il est, ce personnage est sorti d'un univers que tu as connu?
C'est fictif, c'est imaginaire. Moi, dans j'ai des poèmes assez, la plupart sont engagés, et puis d'autres vraiment de pure imagination, quoi, en fait, hein, voilà.
Ah, celui-ci est lié complètement à l'imaginaire, d'accord.
Oui, imaginaire, parce qu'à travers, je ne sais pas, peut-être un orage, peut-être, je ne sais pas, un orage, la pluie, les nuages, les nuages noirs qui s'envolent, et ensuite peut-être c'est dû aussi à la peur quand j'étais enfant, des choses comme ça, et je ne sais pas, c'est un... Oui. Mais tout d'un coup, c'est comme ça.
Oui, d'accord. Je sais pas. Oui. En fait, c'est une interrogation que j'ai eue, en fait, en lisant ce poème, parce que tout à coup, je me suis dit, tiens, oui. Peut-être que... Parce que parfois, on s'inspire de personnes qu'on croise, ou pas nécessairement, voilà, bien sûr.
Perdu,
tout à fait. Mais là, du coup, j'ai eu l'interrogation. Oui. Alors, je vais lire « Novembre ». Dans la grisaille.
Novembre, oui.
Dans la grisaille, je me promène au bord du lac. Le cœur saigne. Les feuilles des arbres. Dans l'eau qui fume. Quelle tristesse. La brume. Je me promène dans la grisaille. En regardant les feuilles qui tombent. Multicolores. Drapeaux d'automne. Déjà novembre. Comme le temps passe. Dans le brouillard, je me promène. Les feuilles des arbres qui tombent sur moi, quelques cygnes passent avec les oies. Je t'aperçois, là-bas, au loin. Je cours vers toi, parmi les feuilles. À côté de moi, un écureuil saute de joie. Il est heureux. Je cours vers toi, les larmes aux yeux. Les feuilles dorées s'envolent au vent. Comme tu me manques, oh que j'ai froid. L'ombre que j'ai vue n'était pas toi. Je cours encore, comme dans un rêve. Novembre, c'est triste, c'est monotone. Tu m'abandonnes, parmi les feuilles, couleur d'automne. Le lac en pleurs, soleil en deuil, les feuilles sont mortes. Ah ben voilà, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Enfin, ça c'est moi qui le rajoute et tiré deux. Hein. Ce n'est pas de moi. Qu'est-ce que je voulais dire, Méas? Oui, pour toi, la poésie, ça a quelle importance?
La poésie, pour moi, c'est la respiration. C'est la respiration, c'est quelque chose qui me propulse, loin, ailleurs, qui me donne du bonheur. C'est grâce à La Rose et le Robert, j'ai rencontré d'abord Éluard, et puis ensuite Verlaine, Rimbaud, Hugo Prévert, justement. Francis Carco, il a écrit des poèmes magnifiques, mais juste un petit, c'est « Où va la pluie, le vent l'amène, en tintant sur le toit, je me serrai contre toi pour te cacher ma peine. les arbres. Oh mince, c'était. C'est très beau, mais je m'excuse.
Ah mais non, mais là, tu nous as fait écouter un extrait, c'était très beau. Et en fait, les poètes, si je comprends bien, tu les as d'abord découverts dans le Larousse des noms propres.
Oui, ah. C'est eux qui ben, c'est comme quand on lit un livre, tu sais, quand on lit un livre, ben, on parle toujours, ben, oui, qui t'oriente, tu vois. C'est comme moi, j'ai lu, je ne sais plus, un livre qui parlait d'un monsieur qui s'appelle Omar Benissa, et lui, il a écrit le Coran, verset choisi, donc je suis allée acheter, et puis après, j'ai lu, ça m'a beaucoup plu, ça m'a, tu vois, ça m'a... Vraiment appris des choses, c'est ça, c'est ça. Et la Rousse et le Robert, c'est ça, quand tu vas dans un, je sais pas, Pascal, il y a plein de Pascal, et puis après, il y a Blaise là-dedans, donc il faut choisir. Donc, c'est moi, mon apprentissage de la langue française, c'est ça.
Bah, c'est assez beau, c'est magnifique même. Magnifique. Oui. Tu vois, d'avoir plongé comme ça dans la culture, dans la langue française en vérité. En même temps, après ensuite, dans la culture française, dans les auteurs, dans la poésie, par le biais des noms propres et d'avoir cette curiosité de chercher, c'est magnifique. Parce que, voilà, c'est une espèce de force en toi, ou je sais pas, de lumière, je sais pas comment on peut dire, comme il y avait quelque chose de très puissant, parce que beaucoup n'auraient pas eu cette espèce d'inclination ou de grâce, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est assez incroyable.
Alors, je vais lire. Excellent, merci beaucoup.
C'est mon simple ressenti, hein. Rêverie. Je vais lire Rêverie. Je l'imagine, je l'imagine sur une île, la vie n'est pas facile. Se réveiller le matin avec le chant des oiseaux, le soleil se lève trop tôt. Les cocotiers sont merveilleux. Je l'imagine sur une plage, courir comme un enfant sauvage à la recherche de vendredi, à la recherche des fruits sauvages, puis s'amuser avec les vagues qui viennent s'écraser contre les rochers. Je l'imagine dans l'eau bleue nager avec les dauphins. Le soleil n'est pas très loin. Lui parle de Rimbaud et de Verlaine. Son corps flotte et les vagues l'entraînent. Beauté sirène, sereine. Je l'imagine au Pérou, marcher sur le mont Machu Picchu. Ses pieds entendent encore du bruit d'une civilisation lointaine. Les ruines lui parlent encore des histoires anciennes. Je l'imagine au sommet du Kilimandjaro, s'émerveiller devant les animaux. Devant un paysage sauvage, un lionceau sur son chemin, le prend dans ses bras, lui fait des câlins. Je l'imagine au Tibet. Elle n'a plus besoin de se déguiser, Lhasa, dans la pauvreté. Son cœur est triste devant un peuple résigné. Le mont Kailash se cache dans les nuages. Ne pas montrer son impuissance devant un monstre chinois. Ses pieds, sur les pas d'Alexandra David Neal, le toit du monde n'a pas beaucoup changé depuis son passage. Ses yeux admirant les mandalas par terre, le vent souffle comme pour faire tourner les moulins à prière. Les yaks, dans le froid, s'endorment dans les poussières. Je l'imagine devant le temple d'Angkor Wat. Le soleil l'accueille avec un bouquet de flamboyants. Les apsaras descendent pour lui offrir une danse, puis le tuk-tuk l'emmène à Bentai Stray. Quelle belle civilisation, dit-elle dans son sommeil, son visage qui brille devant le bâillon. Je m'imagine sur un banc à côté d'elle, à Bandol, Sanary, Saint-Cyr, sur la baie de Hudson, un après-midi dans un tramway en Californie, écouter chanter les sirènes en Calédonie, vivre comme on ne devrait jamais mourir. Ben voilà, Méas, l'opus poétique est bientôt achevé. Je te remercie infiniment. Si tu veux dire quelques mots pour la conclusion.
Je voulais vous remercier à vous tous de m'avoir accordé de vous être intéressé et puis à cette cause et puis à toucher un mot sur les 50 ans de génocide et puis je vais sortir en septembre, il y a un recueil de poèmes qui pour rendre hommage aux victimes déjà qui s'appelle Étoiles, Révolte, hommage et révolte en poésie. qui va sortir en mi-septembre. Et ensuite, voilà, j'ai eu une projection de mon film documentaire Achille Mazarin le 17 avril. C'était super intéressant. Et puis, ben, je cherche voilà, des endroits pour faire des rencontres et puis je vois des projections, des échanges. Et aussi peut-être, si jamais il y a des profs qui s'intéressent pour en discuter, en parler de tolérance, de partage, de échanges sur l'humanité, de pourquoi et comment on en arrive à s'entretuer, à se faire la guerre et puis voilà, pour amener un peu, pour essayer ensemble pour trouver un chemin vers la paix. Voilà.
Merci Méas, effectivement moi je serais intéressée pour que tu me fasses suivre ton documentaire, on verra ensuite en dehors, je reprendrai contact avec toi et oui. Ben, c'est moi également qui te remercie, nous te remercions. Donc c'était le recueil Nuages de Méas Pech-Métral publié aux éditions du Cygne, Nuages. Merci Méas, à bientôt.
Merci beaucoup à vous, merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón, mirando al sur. La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La 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 la. Yo sé que tengo el corazón.
Ben bonsoir Ninon Valder, je suis ravie de t'accueillir.
Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être là, merci beaucoup.
Je t'ai rencontrée ben, aux 40 ans de l'émission Folcalier à la mission ouais. Bretonne et j'ai été subjuguée. Voilà.
Merci.
C'est pour ça que quand tu as fini ton spectacle, je suis allée te voir et puis j'avais vraiment envie de te connaître un peu plus. Quoi.
Ben, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être là. Merci Hélène pour cette invitation.
Alors, parce que j'ai cherché qui tu étais et j'ai appris que tu faisais aussi partie de l'équipe Folcalier.
Oui, absolument. En fait, depuis 2021, je pense, où j'ai fait ma première chronique avec Frantz-Mine Rimbourg.
Oui. Ouais.
Donc, petit à petit, j'ai fini par appeler les chroniques d'un jour bleu, donc le troisième dimanche du mois. Dans Folcalier, où je parle de mon rapport au monde, de mon rapport à la musique et à la musique du monde, bien sûr.
Oui. Et ça, je ne savais pas.
Quand on s'est rencontrés.
Ah ben non, je ne savais pas. Et du coup, je suis très contente. Donc, tu connaissais la...
Je connais la maison.
La maison, pas, voilà. Oui. Mais là, tu es dans une autre émission. Alors, c'est une émission féministe.
Génial. Hein,
voilà, et qui s'appelle Femmes Libres.
Ouais.
Et qui existe depuis 1986.
Ouais, c'est merveilleux.
Donc, l'année prochaine, nous fêterons nos 40 ans aussi.
Ah, super. Bravo.
Voilà. Alors, écoute, pourquoi je t'ai beaucoup apprécié, c'est parce que tu allies la musique et tu la joues avec des flûtes, avec guitare, enfin voilà, tu joues de la musique ouais. tout en chantant. Ouais. Et dans plusieurs langues.
Oui.
Et ça me touche beaucoup parce que c'est vrai, quand tu viens de le dire, les musiques du monde, le monde de la musique, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Quoi.
Absolument. Hein? Ouais, c'est la chose voilà. absolument magique de la musique, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas de frontières en fait.
Ouais.
Elle a vraiment cette capacité de dépasser. Les frontières des langues et les frontières des fois aussi des attachements, des fois des corps, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi, mais il y a une musique qui nous touche elle nous arrive et on la transforme, on l'apprécie, elle nous donne des émotions et ça, c'est, pour moi, c'est magique. Il y a quelque chose de profondément, ça fait, je me rappelle, je crois que ça fait plus de 20 ans où j'ai eu cette sensation, enfin ma recherche dans la musique, c'est justement celle-là, d'arriver à toucher au plus profond des êtres et à parler des choses les plus profondes de l'être humain. qui peut être du coup des choses, quelque chose d'international. Je suis passionnée par ça, je crois.
Et c'est pour ça aussi que dans certains pays, on interdit le chant, hein, comme si le chant pouvait s'enfermer dans une cage. Mais il y a des pays où c'est interdit de chanter.
Oui, ou même de faire de la musique tout court.
Ou faire de la musique.
Il y a des endroits où c'est très très dur, effectivement.
Voilà, alors... Ce qu'on vient d'écouter là, c'est Corazón al Sur. Voilà, c'est un tango de Eladia Blasquez.
Oui, c'est ça.
Voilà, qu'on vient d'écouter. Évidemment, ça touche au cœur. Ouais. Ça, c'est sûr.
Je suis ravie.
C'est sûr. Et d'ailleurs, ton album, c'est. Dans ton cœur,
oui, enfin dans mon cœur, en mi corazón, hein, tout à fait.
Voilà, et du coup il y a quelque chose qui que tu partages avec nos cœurs à nous. Voilà, je le sens comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence l'émission avec ce morceau. Et je voudrais mieux te connaître. Oui. Alors. J'ai compris qu'il y avait des bouts d'Argentine, des bouts de France, des bouts peut-être d'Angleterre aussi. Voilà. Alors explique-nous un peu ton parcours.
Alors moi je suis partie du sud de la France en fait, c'est-à-dire je suis née à Montauban dans le Tarn-et-Garonne et j'ai grandi à Albi dans le Tarn. Et donc je me rappelle très bien les premiers moments où j'ai découvert qui étaient les cathares. Et qui sont pour moi des gens extrêmement libres. Après, évidemment, ça correspond aussi c'est un chemin spirituel qu'ils choisissaient, mais c'était à ce moment-là, la spiritualité était tellement forte que c'était aussi une manière de dire ma liberté, elle est dans mon choix de cette spiritualité. Mais pour moi, c'est des gens qui ont conserver une grande indépendance par rapport au monde. Et à Albi, dans le Tarn, en fait, on est loin de tout, même aujourd'hui, en fait. C'est pas des zones très touristiques, c'est beau, mais on n'est pas sur les côtes.
Et puis, il n'y a pas de TGV qui est.
Il n'y a pas de TGV qui arrive là-bas. Donc, il faut mettre du temps pour y arriver. C'est tout. Et je garde un fort rapport à cette terre, en fait, du Tarn et d'Albi, parce qu'elle m'a nourri vraiment. Et c'est là où j'ai découvert les premières fois les musiques traditionnelles, la musique occitane. J'ai adoré danser les bals folk. Et ensuite, naturellement, quelque part, une fois qu'on a été grandi par la ville, par le terreau associatif, par le terreau musical qu'il y avait là-bas, c'était extrêmement vivant, avec beaucoup de gens qui étaient très impliqués dans la société, en fait, d'en faire ensemble. Je suis partie à Nantes pour mes études pendant 2 ans, une classe prépa, pour devenir ingénieur du son, où je suis entrée à Loup Lumière à Paris, ensuite, 2 ans plus tard. Donc je suis passée par le Grand Ouest avant d'arriver à Paris, une fois arrivée à Paris pour devenir ingé son. Je crois que je suis tombée amoureuse de cette ville par tous les rêves qu'elle porte, en fait. Est-ce qu'on arrive à les réaliser? C'est encore autre chose. Mais tous les rêves qu'elle porte et toutes les choses...
Et c'est quoi les rêves qu'elle porte? Parce que moi qui suis parisienne...
C'est difficile. Quand on est tombé dans la potion magique, on ne la sent plus. Ça, c'est Obélix. Et pour moi, les rêves qu'elle porte, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et parce qu'en en partant, une fois que je suis arrivée à Paris, quelque part, j'en suis toujours partie, mais je suis toujours revenue. Je me sens profondément amoureuse de cette ville et j'aime retrouver l'enchantement. Justement, et pour conserver l'enchantement, il faut partir. Sinon, on se fait manger. Et moi, ce que je remarque, et j'aime beaucoup voir arriver du coup les jeunes en septembre, ceux qui arrivent pour l'université, pour les écoles, car là, ils sont remplis de tous ces rêves, toute cette chose entre la ville de l'amour, la ville de la poésie. On a encore Jaurès au coin d'un café, on a tous les courants littéraires qui sont passés par là, les courants de peinture. C'est sûr que c'est aujourd'hui, ce sont des mémoires. Quand on va à Montmartre, c'est devenu un lieu de tourisme. Et c'est quasiment, c'est pas encore de Walt Disney, mais c'est pas loin. C'est-à-dire,
excepté quelques petits endroits comme ça qui sont un peu épargnés.
Mais et en fait, et c'est surtout les gens qui peuvent continuer à y vivre, est-ce qui réussissent encore à créer des choses, et du coup ça crée effectivement ces petits îlots, et heureusement. Et mais pour moi, ces rêves, c'est un rêve de construire un ailleurs et de dépasser ses limites, en fait, d'apprendre au-delà de ce que l'on peut imaginer être capable. Et dans cette immense ville si cosmopolite, je pense qu'il y a le rêve de chacun de se trouver soi-même profondément. Parce que la cosmopolitanité, non, la spoko, enfin le fait que ça soit...
Cosmopolitisme, oui.
Peut-être.
Ouais.
Là, on arrive à des choses.
Ouais.
Devient en fait une possibilité de se voir en reflet dans tellement de cultures qu'on peut retrouver des parties de soi à l'intérieur et aller au-delà de ce qu'on a appris. Albi, c'était une ville où il y avait en principale peut-être immigration, il y avait des Marocains, quelques Africains. On parle déjà d'il y a longtemps, maintenant sûrement les étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui arrivent et qui apportent un son nouveau et une vision nouvelle, différente en tout cas de ce qu'il y a là, c'était principalement ça.
Et un peu d'espagnol aussi.
Oui, sûrement, oui, tout à fait. Oui, mais en plus en serré, sûrement.
Oui,
oui, oui. Mais complètement espagnol, portugais, sûrement. Et en fait... À Paris, moi, je suis tombée dans la marmite des musiques africaines.
Oui.
Très, très vite. Et je trouve que Paris est une marmite africaine incroyable. C'est magnifique, tout ce qu'on a. Et c'est suite à ça, d'ailleurs, que finalement, en jouant avec Rideau Bayonne, après ce moment-là où je rencontre Étienne Bappé, Paco Seri, Mokhtar Samba, des grands de la musique de l'Afro Jazz Funk... Je me dis, il faut que je me forme plus. Et malgré tout, on était donc il y a un peu plus de 20 ans. Et être seule femme dans des groupes, seule femme instrumentiste dans des groupes, voilà. C'est pas si simple. Je me rends compte aujourd'hui, avec le temps qui a passé et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'effectivement la pression était très forte. Et pour pouvoir grandir sans pression, et apprendre sans la pression, je suis partie en Angleterre faire un master de jazz, où les Anglais, du coup, c'est vachement plus cool. Ils sont moins... Il y a moins cette pression patriarcale. C'est pas qu'elle y soit pas, mais d'ailleurs, c'était une reine à ce moment-là pendant super longtemps, donc le rapport, de toute façon, était différent. Et avec une possibilité, à ce moment-là, j'étais déjà flûtiste, donc j'avais mon prix de flûte, je l'ai eu à Nantes, et de musique de chambre, donc musique classique. J'ai commencé le jazz aussi à ce moment-là, l'improvisation. J'arrive à Paris, je commence le bandoneon. Et donc là, j'étais déjà flûtiste bandoneoniste. Et les Anglais, en fait, ils étaient très contents que je sois flûtiste et bandoneoniste. Les Français me disaient, mais tu es flûtiste ou tu es bandoneoniste? Il faut choisir. Et là, j'ai regardé, je fais, mais je ne sais pas, je voudrais être les deux. Ah non! La case gauche ou la case droite, il faut que tu choisisses. Et l'Angleterre, ça m'a amené ça, en fait. Ça m'a amené le fait de me dire, ok, alors je peux être flûtiste et bandoneoniste, et aujourd'hui, et chanteuse. Donc, Paris, l'Angleterre. L'Angleterre qui m'amène dans le nord de l'Angleterre. Et parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays, moi, que j'ai découvert... Venant du sud de la France, j'étais plutôt anti-américaine, anti-anglo-saxonne, anti tout ce qui parle anglais. Donc ça a été... je ne savais pas parler anglais quand je suis arrivée là-bas. J'avais fait anglais deuxième langue, je prononçais trois mots. J'ai mis 2 ans à pouvoir réussir à parler anglais. J'ai travaillé dans le théâtre, donc finalement, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à apprendre. J'ai appris finalement l'anglais en aimant les gens, en aimant la terre, en aimant leur culture, leur littérature, leur musique, leur manière de se relier au monde. Et Leeds, York, donc c'est des villes vraiment du nord. York, c'est une cité médiévale, il y a eu des rois qui ont été couronnés là-bas. Alexandre le Grand, peut-être. Il y a un empereur romain qui montait jusque là-bas pour se faire couronner, je crois, qui est redescendu. Et avec une grande histoire. Mmh. Et en même temps, les Anglais, ils ont cette histoire, mais ils ont une fantaisie incroyable. À un moment donné, j'ai compris que Harry Potter n'était que l'extension de leur pensée quotidienne, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah, ils sont intéressants quand même. Nous, on les voit un peu, on voit que la bourse anglaise, en fait, on voit le côté très économique.
Et puis très strict.
Et en fait, on n'a qu'une toute petite partie, comme souvent on a quand on connaît un pays de l'extérieur, quand les nouvelles sont filtrées. Enfin, c'est qu'en allant sur la terre qu'on peut vraiment rencontrer. Mmh. Parce qu'il y a plein de gens, comme d'habitude, qui ne font pas parler d'eux, mais qui sont merveilleux. Et quand on les rencontre... Leeds, mon souvenir, c'est Greta, qui était une dame qui habitait dans la maison en face de chez nous, qui avait des légèrement handicapés. Je pense ça devait faire longtemps qu'elle avait une pension d'handicapés. Et ben, elle écrivait de la poésie. Elle allait au club de poésie tous les dimanches. Et ils étaient hyper actifs sur écrire des poèmes et de la littérature.
Ah, ben voilà.
Voilà. Non, mais et là, je me suis
c'est
dit...
C'est la poésie, j'avais même un petit opus poétique.
Voilà, j'ai vu en arrivant... et du coup, j'ai été émerveillée par ça. Je me suis dit, mais... Ah, oh, chouette. Ils faisaient les Cayley, c'est-à-dire des danses irlandaises qui arrivent en Angleterre. Et là, tout le monde danse. C'est-à-dire, il y a vraiment... pour moi, c'était une grande leçon de découverte et d'humilité face à un pays que j'imaginais d'une manière qu'on m'avait construit, d'une manière dans ma tête, et qui, finalement, tout partait... voilà.
Et alors, et l'Argentine arrive comment ?
Alors, l'Argentine arrive par le bandoneon, à Nantes, sûr. Via Piazzolla, et donc Astor Piazzolla... Là, c'est la première graine. En parallèle, il faut que je vous dise que mon père, quand même, danse le tango depuis très longtemps. Et en fait, donc, c'est peut-être ça le truc juste avant. Mais j'avais déjà joué Piazzolla quand j'avais 12 ans. J'entends Piazzolla au bandoneon quand je finis Nantes, donc j'ai 19 ans. Je décide de commencer le bandoneon. Et là, du coup, c'est des petits chemins. Après, du coup, la pensée anglaise... J'étais déjà tombée amoureuse de la pensée sud-américaine qui disait quelque part, ça contrebalançait la partie du Nord, c'est-à-dire les Anglais, c'est aussi très viscéral. Le tango, c'est très viscéral aussi. Donc, bon, je crois que j'aime bien ce truc viscéral quelque part, mais c'est pas fait pareil. On parle pas du même. On parle des émotions. Et donc, après ces 7 ans d'Angleterre, je rentre en France en me disant, qu'est-ce que je fais ? En Angleterre, j'ai joué dans des grandes salles, Covent Garden, Buckingham Palace. J'ai rencontré celui qui est roi aujourd'hui, qui était prince à l'époque, Charles. Enfin, je l'ai rencontré rapidement, je lui ai serré la main. Je n'ai pas non plus mangé avec lui. Mais et là, je me suis dit, c'est super tout ça, mais elle est où la vie ? Notre vie à nous, est-ce qu'elle est dans ces grandes salles ? Ou est-ce qu'elle est ailleurs ? Dans mon rêve, il y avait ces grandes salles. C'est jouer devant 3000, 4000 personnes. Moi, j'ai jamais rêvé des stades. Hein. Déjà, les grands opéras, c'est bien. Et là, du coup, l'appel, ça a été vraiment l'appel de l'Amérique du Sud. Mmh. Et j'ai commencé à voyager vers l'Amérique du Sud, jusqu'à y passer 7 ans. En fait, avec des allers-retours à Paris, je vous ai dit. Moi, j'ai un élastique avec Paris, donc... Donc je faisais des allers-retours, mais jusqu'à réussir à embrasser cette pensée sud-américaine et à aller jouer pour des gens dans des lieux très reculés. Et pour moi, ça, c'était un grand succès du cœur, en fait. Parce que finalement, c'était l'ouverture du cœur, cette Argentine.
On va écouter La Esperanza.
Ah, superbe.
Oh,
est toujours en compagnie de Ninon Valder dans l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire 89.4 et on vient d'écouter La Esperanza, l'espérance.
Oui.
Voilà. Et au niveau musical, là, on a, tu nous gâtes
oui.
en plus.
Alors, ça, c'est le morceau que vous venez d'entendre, en fait, comporte énormément de choses que j'aime particulièrement. Déjà, il commence par le son de la flûte basse.
Mm-hmm.
Je pense que les auditeurs ont reconnu un son de flûte, mais beaucoup plus grave, que nous, on connaît un peu plus ici en musique contemporaine. Et là, moi, je déplace justement vers une flûte andine. Donc, ces flûtes des Andes où on a beaucoup d'attaques et qui ensuite arrive juste sur ce morceau qui est en fait une samba argentine, samba avec un Z, et qui a un rythme en fait de 6-8, 3-4. Alors, carrément, je rentre dans les détails. Pour ceux qui auront envie de la réécouter, plongez dedans, essayez simplement de sentir comment on balance votre corps et comment, en fait, à l'intérieur, 6, 8, 3, 4, ça veut dire qu'en fait, la pulsation, elle est claire, mais en fait, on peut la vivre de deux manières, soit sur certains appuis, soit d'autres appuis, mais on retombe toujours sur quelque chose qui va rouler. Et on trouve ça beaucoup dans la musique africaine. Et en fait, moi, c'est une des choses qui m'a fait tomber amoureuse de la musique argentine, c'est ça, ce 6-8-3-4, c'est-à-dire c'est qui la base qui fait toum 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 toum, qu'on peut retrouver aussi dans le nord, dans avec les carcabou, dans tchak 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 au Maroc chez les Gnawa. Et là donc on est sur un rythme beaucoup plus lent, ça fait toum ka toum ka toum toum gaton, gaton. Et on peut compter toum, gaton, gaton, ou toum, gaton, gaton, toum, gaton, gaton, ou toum, gaton, gaton, toum. Et donc, la dernière que j'ai faite donne beaucoup plus d'air et d'espace. Et en fait, peut-être si on parle de liberté, pour moi, c'est un rythme extrêmement libre parce que, en fait, il l'oblige à amener de l'air. Il l'oblige à. Il y a un moment de silence. Toum, katoum, katoum. Toum, katoum, katoum. Et dans ce silence-là, eh ben, c'est une grande respiration et c'est un espace de. Pour moi, qui est fondamental pour. Justement rêver quelque part. On est sur des rêves tout court, hein, on est d'accord, ça dure pas très longtemps cette micropulsation, mais ça introduit quelque chose de l'ordre de la respiration effectivement. Et moi je vois immédiatement le vent, les grandes, la pam pam. C'est un rythme que j'ai mis 2 ans à incorporer. Alors que j'étais musicienne professionnelle, je faisais beaucoup de choses, mais c'est un rythme qui va vers une lenteur, en fait, et non pas vers toujours plus vite. Donc si je dois le faire des parallèles par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas un rythme qui nous oblige à avancer, c'est un rythme qui nous pose des questions sur comment faire pour ralentir, pour retrouver une certaine poésie de l'instant, une poésie de la vie, une poésie du regard, apprécier des couleurs, apprécier un timbre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me permets tellement de changements de timbre aussi dans La Esperanza. Là, je suis accompagnée par Sébastien Cordero à la guitare. Du coup, j'en profite pour dire que c'était Kevin Sedicki à la guitare sur le morceau précédent, El Corazón al Sur. Et là, il y a un grand moment d'improvisation dans La Esperanza où, pour moi, c'est vraiment dire. J'aime beaucoup parler aux gens dans la musique. En fait, j'aime beaucoup me connecter aux émotions qu'on peut avoir et pas seulement aux notes, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire, enfin, j'aime et j'espère à sentir, qu'est-ce qu'il y a à dire à cet instant maintenant pour que les auditeurs arrivent à sentir quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, pas uniquement dans une habitude, en fait, que ça les reporte à la vie, que ça les reporte à un mouvement de cœur, au sang dans les veines, à la respiration, l'air qui rentre, à nouveau ses couleurs. Et donc, dans l'improvisation, là, ça me permet aussi, j'utilise la voix. En général, quand je mets de la voix, c'est que j'ai envie d'interpeller. Et c'est plus une question, ah, quelle est la note qui va bien sur l'accord ? Ça, pour moi, c'est un travail fondamental à faire, mais avant, pas au moment où on est en concert, pas au moment où on enregistre. Mmh. Au moment où on enregistre, c'est le moment où il faut accepter de tomber, peut-être.
Et, ça, de lâcher prise.
Lâcher prise, c'est ça. Mmh. Et c'est vachement difficile. mais c'est quand on... Moi, quand on y arrive, c'est magnifique parce que j'espère à ce moment-là toucher les gens, en fait.
Bah, tu les touches. c'est, tu m'as touchée, en tout cas. Et pas que moi. Alors, on va écouter une samba, là.
Oui.
Para no morir.
Un samba para no morir, ouais. Voilà. Magnifique.
Viva.
tutto il campo, il frutto e la miel. Y estas ganas de amar no me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, rompo al gritar que volveré repartida en el aire a cantar. Siempre
en compagnie de Ninon Walder, on n'ose même plus parler après une si belle chanson.
Merci.
On est toujours sur Femmes Libres dans l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Là, tu disais des choses aussi pendant la chanson,
oui.
qui sont importantes.
Oui.
Et une question, qu'est-ce que c'est que la création féminine dans là, en l'occurrence, dans la musique.
Oui, hein? Absolument. Oui. Oui. Moi, de toute façon, je peux parler que là, puisque c'est là où je travaille le plus, enfin, où je... Je travaille dans le sens où je ressens, j'expérimente, je joue. Et je me suis rendu compte, effectivement, en enregistrant ce disque, que j'avais osé, dans cette intimité du studio, rester très très proche de ma sensation profonde et ne pas en sortir. Et j'ai osé être douce et en même temps avec une certaine force, mais en même temps fragile. J'ai osé des choses piano, j'ai osé des même dans les instrumentaux. Je n'avais pas envie de percussion, c'est pour ça qu'il n'y a que des duos en acoustique ou des solos, c'est-à-dire quelle liberté, jusqu'où je vais chercher à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma sensibilité, qui évidemment a été entraînée au travers des années, avec toutes les études, tout ce qu'on écoute, tous les partages qu'on peut faire avec d'autres musiciens et musiciennes. Et là, ce qu'on vient d'entendre, la Samba para no morir, c'est Karine Bonnefoy au piano. Et je trouve que moi-même, je reste émerveillée de l'accompagnement de Karine, qui a pareil une certaine force et une douceur en même temps. Et suite à ce travail, je me suis vraiment posé la question. D'abord, il y a aussi oser des silences. Je me suis posé la question, quelle est la musique qu'on entend aujourd'hui le plus? Et je me suis rendu compte que inévitablement, vu que c'est des hommes qui la font depuis très longtemps, on est habitué à une musique très masculine. Il y a des hommes sublimes qui ont une partie féminine très grande, c'est-à-dire, on parle du masculin et du féminin, on parle pas des hommes et des femmes, on parle vraiment de ces énergies intérieures qu'on a, qui font justement qu'il y a du mouvement, que c'est des choses différentes qui se passent. On est différent, on n'a pas, les corps sont différents, là, on reçoit les choses d'une autre manière, entre un homme et une femme, masculin, féminin, c'est pas pareil. C'est bien pour ça qu'on est dans une mission de femme libre. Et du coup, ma grande question aujourd'hui, c'est comment va pouvoir se déplacer la musique, parce qu'aujourd'hui on a plus de femmes sur scène, mais c'est des femmes qui ont mis un pantalon il y a très longtemps, parce que pour réussir à se faire entendre, il a fallu être militante, il a fallu aller crier dehors et se faire entendre et montrer qu'on a des gros bras. Les femmes se sont fait entendre pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elles pouvaient remplacer les hommes, c'est pas faire ce qu'elles avaient envie de faire, c'est qu'il fallait démontrer qu'on était forte. Et aujourd'hui, je me dis, mais alors, quelle va être la musique qui part d'un féminin profond, d'un féminin, pareil, équilibré, féminin-masculin, mais qui part d'une femme? Et où est-ce qu'on va arriver? Quand est-ce qu'on aura plus de concerts sans touf, 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 touf? Parce que le 4-4, c'est hyper masculin. Il a été prouvé que des choses de très, très dures en 4, les femmes, elles sortent parce qu'elles ont mal au ventre, en fait. Et les femmes qui restent, c'est parce qu'elles elles ont envie d'être... Et en fait, ça fait pas du bien au corps féminin. Ces gros sons comme ça qui font, ça fait mal, en fait. Donc les femmes, elles sortent. Et donc, quand est-ce qu'on va arriver à voir l'inverse? C'est-à-dire qu'on ait le droit et que ça soit accepté, qu'on soit pas mal vu, qu'on soit pas critiqué. Et le temps de... Là, j'ai l'impression qu'on commence à peine à permettre aux graines de pousser. Dans notre état aujourd'hui, de finalement d'enlever un peu toutes les pressions qu'on a, nous les femmes. Moi, je ressens beaucoup de pression quand même. Aujourd'hui, peut-être entre l'âge et l'évolution de la société, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui peut effectivement pousser sans être plié par les vents à droite, arriver un truc qui nous rase parce que personne nous appelle, parce que... Ah ben non. On se rend compte de beaucoup de choses dans le milieu de la musique aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que ces jeunes femmes, parce que je pense que c'est elles qui vont réussir petit à petit à grandir après, en fait, on prépare un terreau, quelle sera cette musique quand on va pouvoir voir... Les femmes auront grandi sans être en permanence attaquées à droite, à gauche par des « il faut rentrer dans telle case ».
Dans telle case, et puis remplir l'espace sonore à tout prix, quoi.
Voilà.
Et le 4x4, moi, ça me fait penser à la voiture.
C'est beau, ça.
Voilà. Et la voiture, c'est pas trop ce qu'on aime.
Voilà, c'est ouais. Ça. Donc c'est...
Non, mais tu as raison. Dans les... C'est pour ça que j'aime le jazz, moi.
Oui.
Parce qu'il y a des rythmes différents, parce que on peut avoir une mélodie qui revient, qui remonte et qui redescend et
oui.
qui voyage, quoi.
Oui.
C'est pour ça que j'aime le jazz. Mais tu as raison dans ce que tu dis, parce que je crois que toi sur scène, c'est ça qui va permettre à des jeunes d'aller sur scène. Dans cette veine-là, quoi.
J'espère.
Ouais.
Mais en même temps, si je peux me permettre, parfois je me dis aussi que, justement, il y a cette histoire de yin et de yang. Moi, par exemple, je peux tout aussi bien être très portée, tu vois, par ce style de musique qu'on vient d'entendre. Mais comme parfois, je peux être habitée et avoir envie d'entendre ce que tu as dit, par exemple, les 4x4. Par exemple, je peux très bien aussi aimer la batterie de Billy Cobham.
On est sur du grand, on est sur des grands, on parle d'immenses musiciens quand même.
Non, mais
donc il est énorme. on peut pas mettre tous les grands musiciens à la poubelle parce que
non, mais ce que je veux dire, qu'ils ont un, tu vois, ils ont une espèce de puissance.
C'est fantastique.
Ils ont une espèce de puissance.
Mais évidemment.
Comme ça fait un peu le 4x4 dont tu parlais tout à l'heure.
Non, c'est pas ça.
Non,
Billy Cobham, là, on est quand même sur des maîtres du rythme. Moi, quand je parle du 4x4, c'est les musiques. Toutes les musiques commerciales qu'on peut entendre absolument partout, qu'on s'en rend même pas compte. Et c'est des choses, en fait, où ça nous met le cerveau genre touf, 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 touf. Et en fait, on marche comme ça, on écoute comme ça, on pense carré. Et en fait, mais Billy Cobham, c'est un poète, c'est un magicien.
La comparaison était peut-être malvenue.
Non, mais par contre, évidemment que c'est... Là, c'est très beau l'exemple que tu dis parce que moi aussi j'adore Billy Cobham et on a besoin de ça. On ne peut pas être que d'un côté. On a besoin de cette diversité.
Absolument.
Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, justement, la diversité, elle se réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup à un truc très uniformisé où qu'on entend partout et petit à petit, en fait, la diversité qu'on peut amener par la musique, par un grand musicien qui nous raconte son histoire en jouant des rythmes. Chaque grand musicien porte son histoire à l'intérieur de sa musique et porte l'histoire de tous ceux qui l'écoutent et l'histoire mondiale. Enfin, il y a quelque chose de très fort quand un musicien arrive à être dans son axe et s'exprime. Un musicien, une musicienne. On est d'accord que le mot musicien inclut aussi toutes les femmes. Et ça, c'est fondamental d'écouter tout le monde. Aujourd'hui, le problème, c'est que pour moi, on sait que tout ça, ça nous influe énormément. La musique influe sur plein d'espaces dans notre corps, que ce soit sur le système nerveux, que ce soit sur l'eau qui nous compose. Il y a plein de choses. Les vibrations, elles nous traversent. Hein, et si toutes ces vibrations se réduisent de plus en plus à quelque chose qui n'est pas de la diversité, je ne sais pas comment on va pouvoir penser diversité. Comment on va pouvoir penser accueil? Comment on va pouvoir penser... J'apprécie quelque chose que je ne connaissais pas il y a 5 minutes. Comment est-ce qu'on va encore accepter d'être pris par la main par un musicien qui nous fait passer une frontière? On en parlait tout à l'heure, la musique n'a pas de frontières. Et en fait, pour faire passer les frontières des êtres, il faut des grands musiciens qui ont la poésie, c'est pareil, n'a pas de frontières. Elle nous transporte au-delà, elle nous décale. Et pour moi, c'est fondamental de conserver cette diversité. Donc, ouais. M'écouter, super, et aller écouter Billy Cobham, et aller écouter Toumani Diabaté, aller écouter Karine Bonnefoy, qui est une magnifique pianiste de jazz. Elle improvise, en fait, là, son accompagnement, Karine.
Ah, d'accord.
C'est improvisé. Et c'est aussi pour ça qu'on atteint des endroits de grande sensibilité. C'est-à-dire que il y a ce travail de technique, il y a ce travail de connaissance, et tout, il y a ce travail d'écoute de la musique de l'autre. Et qu'est-ce qui doit naître là, à ce moment-là? Et on est plus sur quelque chose de rationnel, où la musique aujourd'hui est extrêmement rationalisée à cause d'un tempérament. C'est-à-dire, pour les auditeurs, c'est depuis Bach, on a décidé que les demi-tons étaient tous égaux. C'est-à-dire, tout le monde voit à peu près le clavier d'un piano. Et ben là, tout est pareil. Sur un violon, on fait tout à la main. Et pour les violonistes, un demi-ton descendant, c'est plus grand qu'un demi-ton qui monte. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, un si bémol sera plus bas qu'un la dièse. C'est la même note, mais c'est pas la. En fait, chez eux, c'est pas la même. Et donc ça a été réduit. Bon, très bien. Dans toutes les musiques orientales ou indiennes, tout ça, ça part en fumée en fait. Ils ont des micros. Pour nous, on appelle ça des micro-intervalles. Eux, chez eux, c'est des émotions en fait. Et après, c'est pareil au niveau du rythme. On a décidé que tout devait passer par le métronome. Mais qui a dit que notre cœur était métronomé? Ça s'appelle un... Comment ça s'appelle quand on a un pacemaker, quand on a un corps métronomé. Mais ça veut dire qu'on nous a mis un truc. Mais donc, c'est pas dans notre nature humaine. Et donc, comment est-ce qu'on conserve nos rythmes? Comment est-ce qu'on conserve notre être profond? Et que, alors là, du coup, on dépasse complètement les frontières homme-femme, masculin-féminin. C'est là, on parle de l'être. Comment est-ce que l'être peut continuer à s'exprimer librement dans un truc où petit à petit, tranquillement, on réduit, en fait, et d'une manière parfois, on ne s'en rend pas compte, quoi, au travers des musiques, on réduit notre capacité à la diversité, à la liberté, et du coup, à une paix intérieure, parce qu'on a le droit d'être qui on veut être. Il faut être comme la société demande. Est-ce qu'il faut être plus productif, moins productif? Voilà, c'est des questions après. Hein.
Je propose qu'on écoute Milonga de Otono.
Ah ouais. Thank you.
Eh bien, on vient d'écouter Milonga de Otoño.
Oui.
Et là, c'est un rythme très différent, un son aussi très différent.
Mm-hmm. Alors, on parle beaucoup de jazz. Là, on est arrivé au jazz grâce à Billy Cobham.
Ouais.
Et puis, enfin, moi, j'ai fait un master de jazz quand même en Angleterre. Ouais. Moi, j'ai une musique argentine qui est extrêmement métissée. Et dans ce morceau-là, on l'entend particulièrement parce que c'est un son où moi j'imagine dans ces solos là j'imagine toujours les grands solos de saxophone ou des choses comme ça qui sont là et qui prennent tout l'espace et en même temps qui nous suspendent, et là on est sur un rythme de milonga, donc c'est quelque chose qui est un peu chaloupé qu'on peut retrouver aussi dans le sud du Brésil. On est vraiment sur des rythmes frontières, on peut se rapprocher de la banera,
mais la cordillère des Andes, pas bon.
Oui, tout à fait, ouais. Mais alors sur celui-là, au niveau du rythmiquement, on est un petit peu déplacé plus vers l'est. C'est-à-dire, la cordillère des Andes est un peu plus à l'ouest. Et là, on est, hop, il y a El Seclanteño, c'est l'avant-dernier morceau du disque qui est vraiment très andin, et c'est vraiment un morceau des Andes. Et là, pour moi, ici, c'est un peu un hommage à toute la flûte latino, qui peut être la flûte cubaine, ou que je rends, et avec, du coup, quelque chose qui est à nouveau très libre. Je joue jamais de la même manière ce morceau-là. L'écriture de départ est très simple, mais ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir une approche très jazz, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de jouer dessus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter?
Et ça, tu t'autorises.
Ah oui.
Ouais. C'est ça qui est beau, ouais. Je trouve. Par rapport à d'autres, alors je parle pas du jazz, mais d'autres musiciens qui s'autorisent pas
à changer.
Ouais.
Moi je pense que c'est mon rêve de tenir ça, en fait. Un, je ne sais pas répéter exactement, parce que je suis différente tous les jours et le public est différent tous les jours. Et deux, tout est toujours très différent autour. Et j'aime écouter qu'est-ce qui résonne à ce moment-là. Et quelque part, ma recherche, c'est ça. Et j'aime c'est ce que j'aime dans les musiciens de jazz, c'est-à-dire... on a étudié pour être improvisateur, on a étudié énormément parce qu'en fait, il faut être capable de jongler avec beaucoup d'éléments différents et que les choses soient disponibles. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus magique pour moi d'être capable d'être là dans l'instant présent, de faire quelque chose qui on a l'impression qu'en fait ça a été déjà créé avant, mais non, en fait, c'est maintenant.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur les musiciens. Comment tu les as connus?
Oh, il y a des parcours. Le tout premier qu'on a entendu, Kevin Sedicki, je l'ai rencontré en 2004 à l'Abbaye de Royaumont, quand il y a un grand bandoneoniste argentin qui est venu, qui était Dino Saluzzi, qui pour moi est un Dino, c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément la musique et le parcours. Et Kevin était là comme guitariste, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Et on s'est dit, on se retrouve de loin en loin autour de cette musique argentine ouverte sur le monde. Et donc ça, c'était ça pour Kevin. Ensuite, Sébastien Cordero, je l'ai rencontré à Paris. Lui, il est argentin. Kevin, lui, il est français. Il vient de Clermont-Ferrand. Et c'est un très, très grand musicien de jazz, Kevin. Il a joué avec Aldi Meola, par exemple. Sébastien Cordero, donc lui, vient de Jujuy. Et c'est un de ces musiciens incroyables, migrateurs. Je crois qu'il est parti de chez lui, il avait 14 ou 16 ans. Son père était musicien, sont passés les grands musiciens du nord de l'Argentine chez lui. Lui est parti ensuite au Venezuela, étudier à Cuba. Enfin, finalement, il est arrivé en France. Moi, je l'ai rencontré il y a une petite dizaine d'années avec un... À ce moment-là, je jouais avec un très, très grand guitariste argentin qui s'appelait Nicolas Colacciolisuela, qui était le guitariste, arrangeur et directeur musical de Mercedes Sosa. Donc, c'est avec Nicolas que j'ai vraiment commencé à pouvoir faire cette musique dont je rêve, qui est celle que je propose dans ce disque. Et du coup, j'ai rencontré Sébastien comme ça, une fois, il y a quelques années, et je l'ai rappelé là, autour de ce projet, parce qu'il me fallait quelqu'un qui soit capable de connaître bien les rythmes argentins. Comme on a vu, il y en a beaucoup. C'est des manières de jouer très particulières de la guitare. Les guitaristes argentins sont très, très forts. Et Sébastien a fait tout ce parcours, et de musique traditionnelle, et de jazz, et d'ouverture au monde. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré, je l'ai appelé. On a ensuite Raúl Barbosa, qui est là, c'est un maître de l'accordéon. Argentin, un grand poète. Moi, pour moi, la poésie est extrêmement importante, donc je suis ravie que tu sois là.
Ah, merci.
Et du coup, Raoul, on s'est rencontrés à l'hommage avec Juan José Mussolini, qui était mon professeur, mon maître de bandoneon, pendant 13 ans, qui est décédé il y a 2 ans. On a rendu hommage à Juan José à Gennevilliers il y a 1 an et demi, et son fils, Juan José Mussolini, m'a proposé de faire un duo avec Raoul. Et j'ai dit, waouh, quelle merveilleuse idée. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette chance. Et d'ailleurs, on va proposer un duo avec Raoul en fin juin à Paris.
Oui.
Et
ensuite, ça sera au Baiser Salé.
Oui, au Baiser Salé.
Le 26 juin.
Absolument, c'est ça. Et ensuite, Karine Bonnefoy, moi, je l'ai rencontrée en 2011. À ce moment, moi, j'ai dans ma tête de réussir à porter le bandoneon vers le jazz, à être aussi libre sur le bandoneon que je le suis sur la flûte. Et ce qui est très drôle, c'est plus j'amène le bandoneon vers de la liberté, plus ma flûte est encore plus libre. C'est-à-dire, non, elle est loin devant et elle court, et moi je suis là avec le bandoneon. Oh, attends, j'arrive. Et une fois que je reprends ma flûte, ça fait vouf. Je fais bon, ben salut, on reviendra plus tard. Et donc, ça fait très longtemps que je travaille sur incorporer des accords de jazz, la vision du jazz dans le bandoneon, réussir moi-même dans ma tête à changer, puisque le bandoneon, moi je l'ai appris comme bandoneon qui joue du tango. C'est-à-dire, c'est des modes de jeu très particuliers. Et le jazz est un autre mode de jeu très particulier. Et c'est au cours de ces études-là, donc c'était bien après mon master de jazz, c'était en 2010, là avec Karine, où j'ai commencé à étudier l'arrangement et l'écriture, l'arrangement jazz, big band. Et en fait, c'est devenu une amie. Et on a commencé à jouer ensemble. Elle était déjà sur le disque de Las Famatinas. Et en fait, on fait un parcours, puisqu'elle est sur mon prochain projet, qui s'appelle Amour, Amor, Music for Peace, qui lui sera au Baiser Salé le 22 mai.
Oui.
Et avec Karine, il y a un parcours autour de la samba argentine, justement, cette samba avec un Z, qui nous laisse beaucoup de liberté. Mmh. Et donc, elle sera présente sur la suite aussi.
Alors moi, j'avais relevé 3 prochains rendez-vous. Il y en a d'autres, mais j'en ai relevé 3. Super. Le 4 mai.
Oui, oui.
Hein, c'est tout près, là. Oui. À l'étoile de Jade, à Saint-Brévin-les-Pins.
Oui, hein, c'est pour ceux de l'Ouest.
Pour Edmi Corazon. Edmi Corazon,
absolument.
Voilà. Le 22 mai, au Baiser Salé, pour ton projet Amour à mort.
Oui.
Et puis le 26 juin, au Baiser Salé aussi, en duo avec Raoul Barbosa.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et je remercie beaucoup, au passage, Maria Rodriguez du Baiser Salé, qui fait un travail magnifique. Je serai en résidence là-bas l'année prochaine. Mmh. Et justement, qui me permet de pouvoir expérimenter, peut-être continuer à expérimenter cette musique. Comment est-ce qu'on écrit à partir d'un lieu féminin. Et le 22 mai, Amour à mort, il y a un troisième musicien qui est Abdoulaye Kouyaté, qui est du coup un joueur de kora et de guitare guinéen, et qui est magnifique. Enfin, qui lui justement est aussi à la frontière. En fait, moi j'aime bien les musiciens frontières, c'est-à-dire finalement les musiciens du monde. Karine, elle est polynésienne aussi, donc elle est jazz woman, directrice d'orchestre, donc compositrice, arrangeuse. Et on la connaît comme pianiste, mais elle fait aussi beaucoup de percus. Donc là, elle passe aux percussions aussi, notamment la percussion traditionnelle polynésienne. Et Abdoulaye Kouyaté, donc là, c'est l'Afrique, et avec kora et guitare. Mais Abdoulaye accompagne Gabi Hartmann, qui est une chanteuse de jazz qui marche pas mal aujourd'hui ici, et qui accepte de venir vers ma musique, qui est aussi une musique qui est métisse, argentine, jazz et Afrique, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à Paris avec les Africains, en fait. Donc retour depuis 2020, retour aux sources. Paris porte cette énergie. Je ne sais pas comment faire pour l'éviter. Enfin, je ne veux pas l'éviter d'ailleurs.
On va terminer avec Oblivion.
Oui.
Et je te remercie beaucoup. Thank you. Voilà, on vient d'écouter Oblivion de Ninon Walder qui vient de partir. On la retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 mai à l'Étoile de Jade, à Saint-Brévin-les-Bains, mais il faut y aller, bien sûr. Le 22 mai, ça sera au Baiser Salé à Paris, et le 26 juin aussi au Baiser Salé à Paris. On passe aux informations et aux communiqués. La vie en rouge à la Cité Audacieuse. Il y a une soirée de lancement de la saison 2 du podcast La Vie en Rouge, conçue et réalisée par des personnes ayant connu la prostitution. C'est le 13 mai et la Cité Audacieuse, c'est au 9 rue de Vaugirard à Paris. Et ça sera à partir... là, j'ai fait une erreur. C'est à Paris 6e et c'est à partir de 18h45. Et au total, c'est 15 femmes qui s'expriment désormais dans La Vie en Rouge. La Cité des droits des femmes, jeudi 1er mai, présentera son mini-musée ambulant dans le cortège parisien dès 12h, place d'Italie. Ce musée ambulant, c'est sur l'histoire des femmes dans les luttes sociales, avec des slogans de femmes en 2023 lors des manifs contre la réforme des retraites. Autre information, les règles élémentaires présentent Règla. C'est le lancement de Règla, la première application qui recense les lieux de mise à disposition de protection périodique gratuite en France. Règla, R-E-G-L-A, accent. Journée d'études du groupe CIL, culture et images lesbiennes, le vendredi 2 mai de 10h à 18h, à l'Amphithéâtre B, à Césure, 13 rue de Santeuil, Paris 5e. Et cette journée a pour objectif de fédérer des chercheurs et chercheuses s'intéressant aux pratiques d'artistes ou de communautés artistiques lesbiennes, ainsi qu'aux représentations lesbiennes. Google Crypt de Marie-Hélène Leny. C'est une exposition qui a démarré le 3 avril et c'est jusqu'au 26 mai à Nuages Verts au Centre des Alternatives 122 rue de Bagnolet dans le 20e. Et c'est présenté le vendredi et samedi de 14h30 à 19h. Par contre, pour ce week-end, le 2 et 3 mai, c'est fermé. Et puis Michel Rollin, Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron. C'est un film qu'elle a réalisé et qui sera diffusé à la SCAM le 23 mai à 19h. À l'auditorium Charles Brabant, donc la SCAM, c'est 5 avenue Velasquez, 75008 Paris, métro Villiers ou Monceau. L'entrée est libre, mais dans la limite des places disponibles. Donc, il est conseillé de réserver auprès de Michel Rollin. Alors, vous pouvez le faire avec le mail rollin.michel, et Michel, c'est ele@sfr.fr, et sinon, par téléphone au 06 28 36 27 16. Et Amande Hart, que nous avons déjà reçue dans cette émission, présente Mujeres, une série de grands portraits de femmes inspirantes d'Amérique latine d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est au Café Fusain, 50 avenue Parmentier, à Paris 11e. Et c'est jusqu'au 30 mai. On va parler aussi de l'hommage à Thierry Delaveau, l'hommage
au label indépendant Visa, label qui existe depuis 1982, puisque Thierry, qui était un des animateurs de l'émission Trafic, est décédé il y a quelque temps. Eh bien, il y a un hommage qui va s'organiser à la Fontaine Magique, un chemin de la Fontaine, 81 540, c'est donc le Tarn, à Durfort, D-U-R-F-O-R-T, à partir de 18h le vendredi 2 mai. Donc ça sera une mémoire d'une balade en polychronie, une expo, des concerts, des espaces photos et puis une session rap. Et à 20h, le concert intérim avec notre amie Agnès Rougier. Et à 22h, un concert tacle, invité Ahmed Azouz, avec ensuite un DJ set Visa, le mouton qui mord. Voilà, on pense beaucoup évidemment à Agnès qui sera donc dans le 2 mai à la Fontaine Magique. Les publications des éditions du Monde Libertaire, eh bien, un dernier livre vient de sortir, Séquences Libertaires, de MLT pour les textes et Holt pour les dessins. C'est des séquences avec des pages dessinées. Donc là, on n'est plus sur les petits formats à 10 euros. Je ne sais pas le prix, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, il sera disponible, cet album de dessin, à partir du 5 mai à la librairie Publico. Et dans les dernières nouveautés, il y a eu L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique de Philippe Pelletier, Paul Robin, La liberté ou la mort de Sylvain Vagnon, Louis Lecoin et le mouvement anarchiste de Sylvain Garel, Abolir l'armée de l'UPF, Terre sainte, guerre sans fin, la création de l'État d'Israël en Palestine, sionisme et utopie du réseau Macno, l'éducation intégrale de Paul Robin, ce sont des textes sélectionnés, expliqués, commentés par Hugues Lenoir, guerre à la guerre de Pierre Sommermeyer, Émilie Lamotte, vivre en anarchiste de Marie-Pierre Tardif et de Sylvain Vagnon. Et puis le livre que j'ai publié en novembre dernier, La guerre contre les femmes contre la guerre. Ça sera l'occasion aussi de le présenter au tiers-lieu qu'il y a en face de la mairie de Paris. Alors j'ai oublié le nom, le tiers-lieu. Qui présentera le 21 mai au soir une soirée contre la guerre et particulièrement la guerre vue du côté des femmes, les femmes contre la guerre, donc les femmes pour la paix. Voilà, et donc ça sera le 21 mai. Alors, je vais retrouver le lieu. Le lieu, c'est... ça va venir. Alors, c'est à l'initiative de la Cité des droits des femmes. Et c'est donc une soirée Femmes pour la paix, avec la présentation de 3 livres. Un livre des éditions Utopia, Culture de la paix, un autre livre Wind des éditions Masso, et le troisième livre, c'est La guerre contre les femmes contre la guerre, aux éditions du Monde Libertaire. Et ça se passera aux Arches Citoyennes, qui est un tiers-lieu juste en face de la mairie de Paris. Ça sera à partir de 17h et la présentation des livres se fera à partir de 18h. Voilà pour les infos. Ensuite, on va écouter Le Temps des cerises. Alors, la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro dans le 11e, métro République Oberkampf ou Fille du Calvaire, est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h. Du 2 mai jusqu'au 23 mai, l'exposition Vis qui veut dire violence policière, d'Ewen. Le dimanche 4 mai à 16h, projection débat Le Pont, film allemand de Bernard Vicky à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry. Le dimanche 11 mai à 16h, français libre et républicain espagnol contre le nazisme, organisé par l'association du 24 août 1944 et par le groupe Salvador Seguí de la Fédération anarchiste. Et le vendredi 16 mai à 19h, Le Voyage suspendu, c'est un spectacle de peinture parlante de Frédéric Forjard. Et Frédéric sera accompagné par Didier Guegde et c'est proposé par Mots et Musique. L'approche est demain, 1er mai, rassemblement à 11h, place des fêtes du cortège libertaire qui descendra jusqu'à la place de la République. Donc 11h, place des fêtes pour le cortège libertaire et à 14h, place d'Italie, le cortège syndical avec une dimension puisqu'on est le 1er mai, mais aussi, si je calcule bien, 80 ans après l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, il y aura une... Et comme nous sommes, le monde entier est toujours le siège de multiples guerres, eh bien, il y aura un cortège antimilitariste fort dans ce cortège syndical. La prochaine émission, c'est le mercredi 7 mai. On écoutera de Ève à Philomène, sans oublier les autres, une rediffusion de Françoise Daubonne, cette grande militante qui était née en 1920 et décédée en 2005. Voilà, c'est Sylvie qui nous présentera Françoise Daubonne. Et ensuite, nous aurons Joëlle Palmieri à propos des 6 podcasts qu'elle a publiés entre le 7 janvier et le 11 février 2025 autour de la douleur impensée. À propos de la fibromyalgie. Et ce sont des podcasts qu'elle a réalisés d'une trentaine de minutes à chaque fois avec un certain nombre de personnes. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée et féministe
tant qu'il le faudra.
On termine avec Estelle pour l'hymne des femmes. Bonsoir.
Nec femine, nec vater affectende. 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 Nec femine, nec vater affectende.
Nous qui sommes sans passé, nous n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.
Debout, debout, debout.